Chapitre 47. Jouna se hâte de traverser le hall des arrivées et de franchir le pont pour se rendre au parking. Il s'engouffre dans sa voiture et file en direction d'Itereux. La sonnerie de son portable retentit et il répond via l'écran tactile du tableau de bord. C'est Sabine Stern, la directrice du centre de détention. Elle le remercie pour sa visite et Jouna en profite pour lui exprimer sa gratitude d'avoir permis cette entrevue avec Jakob Fauster. Un court silence s'ensuit.
« J'avais beaucoup entendu parler de vous avant votre venue, »
dit-elle enfin.
« Et je veux que vous sachiez que Fauster ne quittera pas la prison de son vivant. »
Il est difficile de croire qu'il changera un jour.
J'ai fait des recherches sur lui après votre départ, et j'ai aussi appelé Herbert, mon prédécesseur, pour l'interroger. Il m'a parlé d'un incident qui s'est produit un an avant son départ à la retraite et qui a été étouffé. Lors d'une conversation privée, l'un des gardiens a avoué avoir subi des pressions pour faire sortir Fauster.
Des pressions ? De qui ?
Il n'a pas donné de nom. Le gardien disait qu'il s'agissait d'un homme terrible, qu'on aurait dit la mort.
Jouna la remercie, met fin à l'appel et tente de joindre Saga, sans succès. Après Clara Strandsvägen et le tunnel de Söder qui traverse Stockholm, il suit Nynäsvägen jusqu'à Farsta. Le ciel est blanc et déverse une pluie fine. Il rappelle Manvir, lui raconte en détail tout ce qu'il a appris en Allemagne. Sabine Stern a parcouru le registre des visiteurs de l'institution sans trouver aucun nom de femme suédoise, ce qui implique une fausse identité. Jouna conclut en mentionnant le dernier coup de fil de Stern et le fait que Jurek a tenté, il y a quelques années, de faire évader Fauster.
« Comme l'a dit Saga, » soupire Manvir. « De toute façon, je suis en route pour Itereux.
Et par conséquent, nous allons bientôt découvrir l'identité de l'araignée. » Tranche Manvir. Jouna pense à la façon dont elle s'approche de ses victimes et les attaque par surprise. C'est pourquoi ils l'ont appelé le prédateur. Un nom qui semble aujourd'hui étrangement approprié, les araignées étant des prédatrices extrêmement redoutables. Après trois quarts d'heure de route, Jouna parvient à la lisière d'une forêt et prend la direction du lac Magelungen, puis il longe deux cours de tennis en terre battue et se gare sur un parking devant un grand complexe de bâtiments en briques. Itereux est un service psychiatrique d'urgence pour adultes en unité fermée qui abrite 28 lits. Jouna sort de voiture, se dirige vers l'entrée, appuie sur le bouton de l'interphone et explique qu'il souhaite parler au médecin-chef. 10 minutes plus tard, un homme aux vêtements informes et aux pantoufles élimées entr'ouvre la porte.
« Vous voulez parler à quelqu'un du service, c'est bien ça ?»
Jouna passe devant l'homme et pénètre dans l'espace d'accueil vide où sont disposés quelques sièges et des tables sur lesquelles reposent des dépliants en papier glacé.
« Vous avez rendez-vous ?»
Jouna se retourne, sort son insigne et le tend vers son interlocuteur. « Qui est le médecin-chef ici ?»«
En fait, je sais pas. Jensen est déjà parti, mais nous avons un psychologue, un ergothérapeute et un physiothérapeute. »
Je vais parier sur le psychologue.
Bon choix.
Sourit l'homme avant de disparaître. Jouna essaie de rappeler Saga, tout en allant se poster devant un plan d'évacuation. Le complexe se compose de 4 bâtiments reliés entre eux, comme un fer à cheval autour d'un petit parc. Jouna est sur le point de s'impatienter, lorsque la serrure de la porte bourdonne enfin, et qu'un homme aux cheveux fins et aux joues grêlées entre dans la pièce. Il est vêtu d'un pantalon marron et d'un gilet bleu. Une petite alarme accrochée à une chaîne en plastique pend sur sa poitrine, à côté d'un badge portant la mention « Bror Jansson, psychologue ».
Désolé, j'étais occupé avec un patient angoissé.
Aucun problème, dit Jouna en tendant son insigne. « Malheureusement, nous n'avons pas de poste vacant. » Plaisante Bror.
même pas pour un policier fatigué.
Nous pouvons peut-être faire une exception, mais juste pour cette fois, répond le psychologue en lui rendant sa carte.
J'ai besoin d'informations sur une ancienne patiente à vous.
La sécurité et la confidentialité des patients sont totalement respectées, mais je suppose que vous le savez.
Nous avons dépassé ce stade.
Très bien, dit Bror.
Il déverrouille la porte et laisse Juna entrer dans le service fermé. Il longe un couloir dont les grandes fenêtres donnent sur un jardin clôturé. La pluie qui tombe forme des nuages de gouttes dans la lueur des lanternes.
Bror déverrouille la porte du secrétariat du service de psychologie et fait entrer Juna dans un bureau spacieux. Café, thé, eau ?
Non, merci.
Bror s'installe derrière un bureau. Juna sur la chaise des visiteurs face à lui.
Une patiente, dit Bror en chaussant ses lunettes. Je n'ai pas de nom, mais elle est sortie de l'hôpital il y a environ 3 ans, dit Juna.
D'accord. Alors c'était avant mon arrivée. Mais la majorité de nos patients sont des hommes. C'est donc probablement traçable.
On l'appelait l'araignée.
Ça ne me dit rien. Mais je regarde ce que nous avons, dit-il en se connectant à l'ordinateur. L'année dernière, nous sommes passés à un système de dossiers médicaux en ligne appelé TechCare. Nous avons toujours l'ancien système en parallèle, bien sûr, mais il est un peu compliqué.
Juna tourne la tête vers la fenêtre et regarde la surface grise du lac.
Un kayak glisse dessus, formant des vaguelettes parfaites derrière lui.
Il y a 3 ans, nous avons laissé sortir 7 patientes, dit-il. Katharina Nordine, Jeannette Vogel, Anna Maria Gomez, Mara Makarov, Gerdand...
Makarov ? Elle interrompt Juna.
Ok. Elle avait 19 ans quand la police l'a amenée à l'hôpital de Hudding. Mal nourrie, confuse. Il pensait qu'elle était sans papier. Lorsqu'elle est arrivée, on lui a diagnostiqué un épisode psychotique aigu de paranoïa et elle est sortie de chez nous 2 ans plus tard.
« J'ai besoin de tout son dossier, » dit Juna,
en songeant que la similitude entre le nom sur la carte postale et celui de la patiente ne peut pas être une coïncidence.
« C'est tout ce que nous avons sur elle,
excepté le nom de ses médicaments, » poursuit Bror en parcourant l'écran.
Elle est restée ici pendant presque 2 ans. Il doit bien y avoir...
Attendez. Il est écrit ici que... Ah, ça, c'est pas mal. Elle faisait partie du groupe de Sven Ove Kranz. Ça ne vous dit peut-être rien, mais ça signifie que toutes les séances ont été enregistrées sur vidéo. Le docteur Kranz a obtenu une énorme subvention de recherche de l'Institut Karolinska à Stockholm.
Il est ici.
Il est en congé. Mais les films sont ici, dans nos archives, dit Bror en montrant une armoire à documents ignifugés à côté de la bibliothèque.
Vous pouvez me les sortir?
Bien sûr. Bror remonte ses lunettes sur son front, avance vers l'armoire grise, tape un long code, tourne le gros bouton étoilé et ouvre la porte blindée.
Juna se lève et vient se placer derrière lui. Chaque étagère est divisée en 3 compartiments avec des boîtes métalliques portant le nom et le numéro de sécurité sociale du patient.
« Voici Makarov, » dit Bror.
Il sort la boîte et ouvre le couvercle. Quand il se tourne vers Juna, il affiche un air médusé.
La boîte est vide. Regardez dans les autres.
Bror ouvre les boîtes métalliques les unes après les autres, comparant le numéro de sécurité sociale de la tranche avec celui qui figure sur le disque dur et dans le dossier manuscrit.
« Tout est en ordre », dit-il lorsqu'il a terminé.
« Il n'y a que le sien qui... J'appelle mon collègue avec qui je partage le service. »
Bror retourne à son bureau, appuie sur une touche du téléphone et colle l'écouteur à son oreille.
« Bonjour, c'est Bror. Désolé de te déranger, mais... »
« D'accord, très bien. »
J'ai ici un officier de police qui veut consulter le dossier d'une des patientes de Kranz.
Comment tu sais?
Il écoute un moment sans rien dire.
Le regard vide, puis acquiesce. Je comprends. Merci.
Qu'est-ce qu'il a dit? Demande Juna.
Bror Jonsson se tourne vers lui, l'air embarrassé.
Il dit que quelqu'un de chez vous est déjà passé. Une femme de la Enoa, qui ressemblait à une princesse, est venue ici il y a environ une heure et a emporté le dossier de Mara Makarov.